C'est parti pour 5 mois de discussion, ouverture aujourd'hui des états généraux de l'alimentation, une grande première, hein, l'équivalent, on peut le dire, du Grenelle de l'environnement lancé en 2008. Toute la filière alimentaire était présente, agriculteurs, industriels, distributeurs, consommateurs. Deux chantiers sur la table, le partage de la valeur dans le modèle agricole et l'alimentation saine et durable. Deux chantiers qui symbolisent en quelque sorte les deux points extrêmes de la chaîne alimentaire, là où il y a des problèmes. D'abord, les agriculteurs avec la problématique de leurs revenus et à l'autre bout, les consommateurs avec leur souhait de mieux consommer toujours et au meilleur prix. Sur quoi déboucheront ces réflexions? Personne pour l'instant ne le sait, mais les questions sont là. Comment permettre aux agriculteurs de vivre dignement? Comment enrayer ce dogme du prix le plus bas? Comment répondre aux nouvelles attentes des consommateurs qui sont à la recherche de plus en plus de la qualité? Et puis notre modèle agricole, il faut se poser la question, n'est-il pas à bout de souffle? C'est le téléphone sonne, vos appels au 01 45 24 7000 jusqu'à 20h.
Stéphane Leneuf, le téléphone sonne.
Et au standard, on retrouve Elisabeth. Bonsoir Elisabeth, vous nous appelez de Nantes.
Oui, bonsoir. J'espère être claire parce que c'est un peu impressionnant d'être la première.
Non, vous inquiétez pas. Allez-y, on vous écoute Elisabeth.
Je vous remercie. Alors, j'aimerais soulever deux points. Le premier, c'est que je trouve cela complètement insupportable. Toutes les publicités des grandes surfaces, moyennes surfaces, qu'on peut entendre à la radio ou à la télé, qui nous incitent à payer moins cher, nettement moins cher des produits, soi-disant au meilleur prix, mais un prix d'une indécence totale pour les producteurs. Et on sait bien que du coup, ça leur permet pas de vivre. Et vu le nombre de producteurs qui suicident chaque jour, je comprends pas pourquoi le CSA ne fait pas quelque chose. Parce que là, c'est vraiment de l'incitation à tuer petit à petit, pas seulement notre modèle agricole, mais surtout des personnes. Le second point, je suis assez en désaccord avec ma réponse, mais c'est que en tant que consommateur, apparemment, si on payait un centime de plus notre litre de lait, ça permettrait aux producteurs de lait de s'en sortir beaucoup mieux financièrement. Alors, je suis pas trop d'accord parce que ce serait aux consommateurs de payer et pas aux responsables de cette crise, mais peut-être qu'on pourrait quand même le faire au moins pendant un temps, le temps qui sera certainement long, mais pour restructurer la filière.
Merci Elisabeth, je crois que vous avez bien résumé la situation. Hein. Ce soir, on va parler beaucoup de création de valeur, de prix très bas. Alors, autour de la table, beaucoup de monde ce soir au téléphone sonne. Anne-Gaëlle Béard, vice-présidente de la CSLV, Association de défense des consommateurs, bonsoir.
Bonsoir.
Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, bonsoir.
Bonsoir.
Laurent Pinatel, secrétaire général de la Confédération Paysanne, bonsoir.
Bonsoir.
Et Richard Girardeau, vice-président de l'ANIA, l'Association Nationale des Industries Alimentaires. Bonsoir. Je crois que pour lancer le débat, Elisabeth a bien résumé. Aujourd'hui, on a parlé de création de valeur et de prix bas. Christiane Lambert.
Oui, le constat est sans appel et il a été souligné durant la journée. Il y a eu une destruction énorme de valeur de la production alimentaire dans notre pays depuis 3 ans. La course au bas prix que se livrent les grands distributeurs, notamment depuis les regroupements entre eux en 2014, fait qu'il y a 1 milliard d'euros, grosso modo, qui a été détruit. Tous les prix ont été tirés vers le bas et beaucoup de producteurs aujourd'hui travaillent en dessous de leur coût de production. C'est-à-dire qu'ils ont des coûts de production supérieurs au prix de vente. Ils ne se versent pas de revenus. Et le salaire moyen des agriculteurs, pour 50% d'entre eux, est à 350 euros par mois. Ça ne peut plus durer. Donc nous, ce que nous voulons, c'est rétablir la vérité des coûts de production des producteurs. Nous avons des conditions de production premium en France. Beaucoup de sanitaires, beaucoup d'environnement, des coûts sociaux plus importants, ça nécessite des prix meilleurs. Et ce que nous voulons, c'est recréer du lien entre les producteurs, les transformateurs, c'est-à-dire les industriels et les distributeurs. Comment ? Probablement par quelques éléments de loi en encadrant les promotions des produits un peu plus, probablement aussi en retouchant la loi de modération de l'économie, et puis en incitant aussi les distributeurs à changer de logiciel, qui est le moins cher.com, ça ne peut plus durer. Cette destruction de valeur, elle est destructrice aussi pour les agriculteurs. Et la France est belle parce qu'elle est cultivée, mais s'il n'y a plus d'agriculteurs, il n'y aura plus la belle France que tout le monde apprécie. Donc je pense que c'est un sursaut général auquel il faut appeler tout le monde aujourd'hui. Et puis, elle a raison, l'auditrice, plus 2 centimes sur une brique de lait, ça permet de faire plus 3 centimes chez l'agriculteur, et avec ça, il fait un meilleur revenu. Donc c'est aussi considérer que l'alimentation, ça se paye. Ça fait 20 ans que le prix de l'alimentation baisse en France. On ne peut pas continuer ainsi à descendre.
Richard Girardeau, cette culture du prix bas, il faut vraiment en sortir aujourd'hui. Les industriels de l'alimentaire ont vraiment la volonté d'en sortir.
Pour les industries agroalimentaires, c'est clair qu'il faut en sortir. Christiane Lambert a complètement raison. On a eu des chutes de prix. Je sais que ce n'est pas facile à partager cette donnée, mais les prix d'alimentaire ont baissé de 6 à 15% dans les trois dernières années. Il y a eu une pression due au regroupement de distributeurs. Mais je pense qu'on est à la fin d'un cycle. Et comme l'a dit Christiane et Lambert et les autres intervenants aujourd'hui, je pense que c'est le moment, et on peut remercier le président et les ministres qui étaient là aujourd'hui, il y a une prise de conscience aujourd'hui qu'on doit en sortir et que c'est autour d'une table, avec des conciliations, avec des accords qu'on aura à trouver, concrets, qu'on sortira de cette crise avec les distributeurs, pas sans eux, avec les producteurs, les agriculteurs, qui doivent effectivement sortir de cette situation, qu'une situation d'impasse totale.
Laurent Pinatel.
Oui, moi je pense que les états généraux de l'alimentation qui sont ouverts aujourd'hui ont le mérite de poser l'ensemble de la problématique sur la table, c'est-à-dire le manque de revenus vraiment crucial des paysans, et ce depuis plusieurs années, parce qu'on est dans une crise agricole qui dure. Donc effectivement, ça c'est pas acceptable, il faut trouver une solution. Et puis aussi, il faut quand même reconnaître qu'il y a une partie de nos concitoyens qui n'arrivent pas à avoir accès à une alimentation de qualité. Soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, soit parce qu'ils sont complètement exclus du circuit, c'est-à-dire qu'ils se servent à la banque alimentaire, parce qu'il y a quand même un accroissement de la pauvreté dans ce pays. Et moi, je me dis qu'avec la Confédération paysanne, on sort d'un an de campagne sur l'alimentation. Et le constat qu'on faisait, c'est que quand même, dans la cinquième puissance industrielle du monde, d'avoir des gens qui n'arrivent pas à avoir accès à une alimentation de qualité, ça pose problème. Alors, pourquoi ils n'arrivent pas à accéder à une alimentation de qualité ? Soit on dit, effectivement, les gens font n'importe quoi et ils mettent pas assez d'argent sur l'alimentation. Nous, il nous semble quand même qu'il faut le comparer, la part de l'alimentation dans le budget des ménages, avec la part du logement dans le budget des ménages. Et on voit bien que la part du logement a explosé. Ça veut dire que dans les années 70-80, on a acté politiquement, sans le dire aux paysans, sans le dire à personne, que ça serait nous, producteurs, qui serions la variable d'ajustement. Qu'on allait laisser spéculer l'immobilier, qu'on allait laisser s'envoler les loyers et s'enrichir les gens qui spéculaient sur l'immobilier, et que les paysans, ils allaient se serrer la ceinture. Donc ça a assez duré, et il faut qu'à la sortie de ces états généraux de l'alimentation, on puisse réconcilier cet aspect consommateur qui a en plus, mais on y viendra sûrement au cours de l'émission, de plus en plus de défiance par rapport à l'agriculture, et le revenu des paysans. Enfin, il faut qu'on sorte avec quelque chose qui redonne de l'espoir à tout le monde.
Anne-Gaëlle Béard, est-ce qu'aujourd'hui les consommateurs changent? On le sait, il y a peut-être pas une majorité, mais des consommateurs aujourd'hui ont tendance à vouloir évoluer dans leurs pratiques. Mais est-ce que tout le monde en a les moyens?
Alors, effectivement, tout le monde n'a pas forcément les moyens. Maintenant, on a quand même une volonté de manière générale du consommateur. Et la personne l'a bien dit, c'est que on est plus sur la notion de ce prix bas. Aujourd'hui, on est plus sur la notion d'un juste prix. C'est-à-dire qu'effectivement, faut pas que ce soit au détriment de la vie de l'agriculture, de la vie de cet agriculteur. Donc aujourd'hui, consommateur, il est quand même prêt à effectivement donner un peu plus, à payer un peu plus, à partir du moment où effectivement cette revalorisation va aller au bénéfice de cet agriculteur pour qu'il puisse s'en sortir et pour qu'il puisse vivre dignement. Maintenant, il y a aussi des études qui ont montré que on peut bien manger sans forcément cher. Donc il faut aussi trouver le juste milieu, et c'est vrai que c'est difficile, c'est compliqué. D'ailleurs, ça va être l'intérêt de ces états généraux, c'est qu'on va pouvoir tous échanger autour de la table et puis trouver, je vais pas dire des compromis, mais c'est un peu ça au final, et vraiment d'avoir un dialogue et de voir ce qui est le plus consensus parmi tout le monde.
Loïc, vous nous appelez de Saint-Omer, on vous écoute Loïc.
Oui, bonjour, merci de prendre mon appel. Alors, moi je suis maraîcher en agriculture biologique depuis 8 ans. Je vends en direct ma production sur un marché, c'est un étal de producteurs, je ne fais pas du tout d'achat-revente. Un des objectifs quand je me suis installé, c'était d'avoir des prix intéressants pour pouvoir travailler avec un maximum de personnes dans la société. Depuis 8 ans, je constate quand même que les classes les plus populaires ne viennent pas vers ce type d'agriculture. J'ai pu un peu analyser le problème. Je pense que dans les classes les plus populaires, il y a une malbouffe qui est très présente, on ne peut pas le nier, et qu'en fait, à travers le sucre, le grain et le sel, il y a beaucoup de plaisir qui est apporté au cerveau, dans la vie. Et ils ont du mal à décrocher de cette forme de nourriture. Voilà ce que moi j'en pense. Je sais pas si...
Merci Loïc de votre réaction, Christiane Lambert.
Oui, la présentation qui a été faite ce matin par l'ANSES, l'Agence nationale de la sécurité environnementale et sécurité au travail, dit exactement cela, c'est-à-dire que les populations les moins aisées ont une vraie difficulté à accéder à certaines alimentations. Il y a une question de coût aussi. Les produits en agriculture biologique sont plus coûteux, donc ce n'est pas forcément pour toutes les populations. Mais il y a concomitamment à mener un travail d'information sur l'alimentation, expliquer aussi aux consommateurs que acheter des produits et les cuisiner soi-même, ça coûte moins cher, plutôt que d'acheter des produits tout transformés. Il y a aujourd'hui un travail important qui est réalisé par les industriels pour avoir moins de sucre, moins de gras, parce que ça fait partie du plan national nutrition santé piloté par le gouvernement. Il y a un pourcentage d'obèses qui augmente malgré tout dans notre pays. Donc ce qui est très important à retenir, je crois que pour une bonne alimentation, la clé c'est la diversité, l'équilibre et la diversité. Mais je dis aussi que savoir acheter pour les consommateurs, ça s'apprend aussi. Et c'est vrai qu'acheter du tout prêt ou du sucré ou du fast-food, voilà, il y a d'autres alternatives et nous attachons beaucoup d'importance et je crois que ça sera aussi un chantier avec les associations de consommateurs qui le font vraiment, d'éduquer les plus jeunes à cuisiner, à travailler avec les produits, à se former sur les produits. Je crois que c'est aussi un élément très très important. Et nous, producteurs, il n'y a rien qui compte plus que justement la bonne utilisation des produits. Quand ils sortent de nos exploitations, ils sont sains. L'industrie agroalimentaire a fait énormément d'efforts pour améliorer les choses. Mais par contre, l'éducation des consommateurs, c'est le cas. Quand j'entends dire que certains jeunes, aujourd'hui jeunes filles ou jeunes garçons, à 18-20 ans, ne cuisinent plus, n'épluchent plus les pommes de terre ou les légumes, ça ne nous prépare pas des jours très joyeux.
Richard Gérardot, vous voulez réagir?
Oui, je voulais réagir sur, il y a effectivement une règle, et je pense qu'on partage tous cette même valeur ici, plaisir et pédagogie. Il n'y a pas eu assez de pédagogie dans les dernières années, et il y a une vraie recherche de plaisir. Mais à l'ANIA, on s'est engagé via une commission, via des plans de travail très précis, sur la baisse de sel. On a baissé le sel dans toute la charcuterie, ou les jambons en particulier. On a baissé le sucre sur la plupart des produits, et le gras, on s'est engagé aussi sur des baisses de gras. Les industriels adhérents à l'ANIA baissent ces trois produits qui sont les trois dangers pour certains médecins qui apportent quand même, et ça a été dit par cet auditeur, qui apportent du plaisir dans la nourriture. Il faut arriver à se désintoxiquer de surconsommation de gras, de sucre et de sel. C'est vrai que c'est clé. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est qu'au-delà de tout ça, il y a un problème économique global. C'est que Et la clé est l'agriculteur. C'est pour ça que je me bats, moi, au sein de l'ANIA et dans mon entreprise. La clé est l'agriculteur. Il faut que l'agriculteur soit mieux rémunéré. Mais toute la chaîne derrière, il entraîne toute la chaîne, le distributeur entraîne toute la chaîne de valeur jusqu'au consommateur. Il y a ce plaisir, il y a la pédagogie, mais il y a aussi le problème économique et social que pose la pression sur les prix.
Laurent Pinatel.
Ouais, moi... J'aimerais pas qu'on sorte de ces états généraux de l'alimentation juste avec cette recommandation qui avait déjà eu lieu d'ailleurs sur les états généraux de l'alimentation en 2000, qui dit en fait le consommateur c'est un idiot, il va falloir qu'il comprenne, on va l'éduquer, on va l'informer. Au bout d'un moment, il n'y a pas que ça quoi qui doit ressortir. Et ce qui doit ressortir, c'est que mon voisin de table, il va falloir que l'industrie agroalimentaire elle partage un peu les profits qu'elle fait sur le dos des paysans. Ça c'est une réalité et il faut que ça ressorte très fort. Toutes les entreprises d'agroalimentaire sont pas florissantes, mais certaines le sont. Quand on voit Danone l'année passée qui dit, nous on a obtenu des bénéfices records parce qu'on a payé le lait pas cher. C'est indécent en fait. C'est indécent. Et il va falloir que ressorte de ces états généraux de l'alimentation une vraie répartition des marges. Il va falloir de la transparence de la part des industries agroalimentaires qui nous disent carte sur table, voilà ce que j'achète, voilà ce que je revends et voilà ce que me coûte le stockage, c'est sur production. Enfin, il va falloir qu'on joue carte sur table et qu'on soit très transparent pour arrêter que les producteurs ils crèvent pendant que l'agroalimentaire il se porte pas trop mal. Quoi.
Richard Gérardot, vous vouliez répondre?
Vous savez, il y a des rapports annuels, il y a des assemblées générales, nos chiffres, nos résultats, nos bénéfices sont complètement transparents. Quand ça a été annoncé aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire a perdu 5 points de rentabilité en 3 ans. C'est un fait, c'est une réalité qui est vérifiable dans tous les comptes des entreprises, que ce soit...
Alors, qui est le grand responsable? On a l'impression que tout le monde est d'accord. Bon, la grande distribution n'a pas pu venir autour de ce plateau, mais est-ce qu'il n'y a qu'un seul grand responsable? C'est la grande distribution et les autres, tout le monde se retire de sa responsabilité. Alors, Christiane Lambert.
Alors, quand même... Il y a un chiffre qu'il faut citer, il y a 500 000 agriculteurs, 13 000 industries agroalimentaires et au bas de l'entonnoir, 4 distributeurs au moment de l'achat. Donc l'entonnoir est redoutable et la pression s'exerce là. Ces distributeurs se battent pour des parts de marché, communiquent pour attirer les consommateurs sur la base du prix le plus bas, oui, c'est vrai que la valeur se détruit là. Et quand je disais qu'un milliard d'euros de valeur a été détruite, c'est moins d'argent donné aux industriels qui ensuite se retournent vers nous en disant « Désolé, je n'ai pas pu passer de hausse, donc je ne peux pas vous payer plus que ça. » Je vais vous donner un exemple très concret, production porcine. Je suis producteur de porc. Le prix du porc a augmenté de 26% en une année parce que les Chinois achètent beaucoup de porc. Merci les Chinois. Mais dans le même temps, les industriels qui achètent mes porcs doivent le payer plus cher aussi. Et ils auraient dû passer des hausses de 10% à la grande distribution pour pouvoir équilibrer leurs comptes. Ils n'ont passé que 1,8%. En réalité, aujourd'hui, c'est eux qui perdent de l'argent. Et ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas répercuter jusqu'au consommateur. Quand le prix de l'essence augmente, il augmente jusqu'au consommateur. Pour l'alimentation, c'est toujours « Ah ben non, les prix à la consommation doivent rester à tel et tel niveau ». Et on voit qu'il y a une très grosse réactivité à la baisse, mais il n'y a jamais de réactivité à la hausse. Donc nous voyons les cours des produits agricoles qui sont très volatiles, ça monte, ça descend. Matière de consommation, c'est régulier, mais vraiment, oui, les distributeurs portent une responsabilité. Nous les appelons. C'est aujourd'hui eux qui doivent venir autour de la table. Ils ont été un peu trop peu bavards aujourd'hui quand même. On ne les a pas assez entendus. Ça a été les grands silencieux. On parle de la grande muette, mais aujourd'hui, le grand muet, ça a été le distributeur qui n'a pas assez parlé de ce qu'il a envie de faire avec nous. Nous, on lui tend la main, mais pas indéfiniment. C'est-à-dire que le partenariat tissé avec eux, il faudra qu'il soit sur des bases de confiance. Pour l'instant, elle est à refaire, cette confiance. Elle n'existe pas assez.
Anne-Gaëlle Béard, si les prix augmentent, les consommateurs, ils seront perdants forcément aussi. Mais en même temps, il y a une demande, effectivement, des consommateurs en disant on est prêt à payer un peu plus cher la qualité.
S'il y a la qualité derrière, effectivement, c'est possible. Après, je voudrais revenir sur des choses qui ont été dites concernant notamment l'étiquetage. Alors, effectivement, vous disiez parler de prendre le consommateur pour un idiot, qu'il faut l'éduquer et ainsi de suite. Il y a deux choses importantes. C'est que non seulement il faut qu'il soit informé, mais il y a quand même peut-être besoin, entre guillemets, d'une éducation, comme Mme Lambert a pu le dire. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, cuisiner, etc. Ils ne savent pas. La CLCV œuvre beaucoup dans ce genre de choses.
Je vous interromps juste simplement pour vous faire part de cette réflexion de Clarisse par Internet. Hein. Quelle est la responsabilité des consommateurs, nous qui voulons toujours payer moins cher?
C'est juste.
À un moment, faut bien. Alors, il y en a encore qui ont cet esprit-là, mais de plus en plus. On change et on est plus sur la notion de justesse du prix. Parce que la qualité, elle a un coût. C'est aussi ce qu'on a pu voir aujourd'hui durant la journée. C'est qu'on constate qu'entre le côté sanitaire, entre les améliorations, la technique et ainsi de suite, forcément, il y a un coût. Donc, le consommateur va être prêt à payer un peu plus cher. Mais il faut aussi que ce soit le juste prix.
Alors, Christine, au standard, justement, vous vouliez réagir. Vous nous appelez de Saint-Thierry-sous-Bois. En Corrèze, hein, je crois, pas très loin.
Non, c'est en Haute-Vienne, mais c'est le Limousin, vous tracassez pas.
Mais on n'est pas loin, c'est le Limousin.
C'est ça.
Vous vouliez réagir justement sur le coût, effectivement, sur les marges de la grande distribution et sur les salaires et sur le pouvoir d'achat, en quelque sorte.
Hein. Exactement. C'est-à-dire que, alors je précise tout de suite que je suis agricultrice moi-même, hein, donc je sais à peu près quoi on cause quand on ne nous paye pas correctement, mais j'ai aussi été longtemps salariée. Et il existait une chose, on dit « ouais, les gens veulent des prix bas ». Alors bien souvent, c'est parce que les salaires ne suivent pas. Et en fait, avant, il existait quelque chose qui était fort intéressant, une revendication importante, qui était l'échelle mobile des salaires, hein, qui a été obtenue en France, donc je me suis refait, puis je me rappelais plus trop, en 52, et supprimée au moment du tournant de la rigueur, en 1982, par François Mitterrand, bon, peu importe, mais qui faisait en sorte que quand les prix à la consommation augmentaient, les salaires suivaient d'autant. Et ça, ça a été supprimé. Et donc, on voit que les salaires ne bougent pas, en tout cas, pas beaucoup. Et donc, les gens se rabattent sur des prix les plus bas. Alors, c'est vrai que la grande distribution fait des marges, d'accord, mais on pourrait aussi prendre le sujet plus globalement au niveau du pouvoir d'achat et de voir aussi la revalorisation, voire revenir à l'échelle mobile des salaires. Je soumets ça aux intervenants, ça m'intéresse.
Christiane Lambert vous répond et après Laurent Pinatel.
Indéniablement, ça a été un choix politique de dire qu'il fallait en France une alimentation pas chère. En 2009, au moment de la loi de modernisation de l'économie, les clés du camion ont été données à la grande distribution. Faites-nous des prix pas chers. Il faut sauver le pouvoir d'achat des consommateurs. Et ça s'est fait au détriment du pouvoir d'achat des producteurs. C'est nous qui avons subi ces baisses et ces baisses et ces baisses. Et quand même, 55% des consommateurs aujourd'hui disent qu'ils sont prêts à payer un petit peu plus cher. Il ne faut pas faire peur aux consommateurs. Quand je dis que c'est 2 centimes par brique de lait, L'initiative qui a été mise en place et qui va crescendo, qui s'appelle « C'est qui le patron ?» le lait du consommateur, est partie du besoin en coût de production du producteur de lait, de combien a-t-il besoin pour produire son lait et gagner sa vie? Il a besoin de 39 centimes. Eh bien, les consommateurs ont dit « Ok, consentement à payer, 99 centimes la brique de lait, tout le monde s'y retrouve ». Donc il faut démultiplier ces initiatives-là. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, beaucoup d'associations de consommateurs portent ce message-là. Qui défend les prix bas? Pas les consommateurs, les distributeurs. Et leurs marges sont confortables. Mais beaucoup de consommateurs se disent prêts, eux. Et dans les achats de proximité, aujourd'hui, la distribution explose complètement. Il y a des drives fermés. Il y a le food truck, il y a le cash and carry. Il y a tous ces modes de consommation qui explosent. Et la grande distribution est confrontée, elle aussi, à un changement complet de son modèle. C'est le moment pour elle aussi de s'interroger. Et nous, nous sommes prêts à des contractualisations dans le temps, avec des volumes, des qualités garanties, et des tunnels de prix pour que chacun puisse s'en sortir.
Laurent Pinatel, justement, cette explosion de la distribution, hein, les nouveaux circuits, c'est un vrai succès aujourd'hui. Ce sont des choses auxquelles se raccrochent les consommateurs.
Oui, on voit bien qu'il y a un engouement pour les produits identifiés à un terroir, à un territoire. Ça, c'est quelque chose d'important. Je pense que l'agriculture, c'est surtout l'expression d'un territoire à travers des produits. Il ne faut pas le perdre de vue. C'est pour ça que nous, on plaide à la Confédération Paysanne pour une agriculture relocalisée. Comment on peut servir à partir d'un territoire un maximum d'acteurs, oui, les collectivités, par exemple, d'un même territoire, ou les consommateurs, adapter l'offre à la demande à l'échelle d'un territoire. Je voudrais quand même revenir sur les propos de l'ANIA. Moi, ça me gêne un peu, cette histoire, quand même, de dire, oui, mais nous, on a perdu 5 points. Moi, je suis pas un expert des comptes de la grande distribution qui se gave, certainement. Là-dessus, nous, il n'y a pas de souci. Ou de l'industrie agroalimentaire. Mais il y a quand même un rapport qui avait été commandé par Stéphane Le Foll. Il y avait un médiateur en pleine crise, il y a un an ou deux, là, qui disait, en fait, oui, la grande distribution, ils prennent bien ce qu'il faut, mais la grande transformation prend aussi bien ce qu'il faut, quoi. Donc, moi, je dis qu'il faut remettre tout ça à plat. Et nous, on appelle de nos voeux, à l'issue de ces états généraux de l'alimentation, une vraie relation contractuelle entre la grande distribution, la grande transformation, les producteurs, avec comme arbitre les pouvoirs publics, pour que tout le monde joue carte sur table. Nous, producteurs, on va jouer carte sur table, on va mettre nos coûts de revient sur la table, quelles que soient nos productions, ça peut être en fruits, en légumes, on met nos coûts de production sur la table, et à partir de là, on dit, bon, ben, ça, c'est ce qu'il faut donner aux paysans, c'est la part du paysan, c'est le premier élément. Et après, il y a la part de la grande distribution, il y a la part de la transformation, mais il faut jouer la transparence. Je discutais à midi en mangeant aux états généraux, avec quelqu'un de la grande distribution qui disait, nous, on est vertueux parce que on paye notre lait à l'industriel qui nous fournit, de manière à ce que le producteur soit rémunéré en moyenne sur l'année 340 euros. Je dis, je suis désolé, mais vous êtes fait avoir, quoi. Vous êtes fait avoir, parce qu'il n'y a aucun, aujourd'hui, industriel laitier qui paye 340 euros, industriel privé ou coopératif, qui paye 340 euros. Donc ça veut dire que ça manque de transparence, c'est une grosse opacité, et le fait qu'il y ait énormément d'organisations au-delà de la sphère agricole dans ces états généraux de l'alimentation, c'est quelque chose de... Il nous semble plutôt important que tout le monde puisse se saisir de la question agricole sous l'angle de l'alimentation. Parce que je pense que c'est vraiment la nouveauté de dire on va revisiter la politique agricole sous l'angle des politiques alimentaires. Et le fait qu'il y ait un maximum d'acteurs autour de la table, c'est quelque chose de très important à nos yeux.
Richard Girardeau, la contractualisation, vous y êtes prêt, comme éventuellement la grande distribution?
Mais on le pratique. On le pratique. Je peux citer des marques adhérentes à l'ANIA. Qui pratique les contractualisations, en particulier dans la viande de porc, qui peut répondre aux attentes de Madame Lambert. Mais je voudrais reprendre le propos. On peut avoir un discours dogmatique et j'ai aucun souci à l'aborder. Et j'ai essayé de l'aborder tout à l'heure via la vision économique. On est parti sur l'agriculture et vous avez raison, on parle de l'alimentation. 70%,
les deux sont
complètement liés. 70% de la production agricole finit ou commence une nouvelle vie dans l'agroalimentaire. Ça veut dire qu'on est dépendant et qu'on est lié les uns aux autres. Quand effectivement vous avez une perte de 5 points de marge, ça vous paraît anodin, mais un actionnaire qui n'a pas de perte dans un pays va plus investir dans ce pays. Pourquoi à un certain moment on se bat pour maintenir nos marges? C'est qu'à un certain moment on doit tous défendre nos activités en France face aux activités des autres pays. Et effectivement, un pays qui ne développe plus sa marge, effectivement, on n'est plus performant aux yeux d'un actionnaire, quel qu'il soit. Je n'ai pas le pouvoir de changer les règles, je ne pense pas que la Confédération ait le pouvoir de changer les règles, mais à un certain moment, ça veut dire que c'est un pays où on n'investira plus, la France, et c'est un pays où on perdra des emplois, qui ne seront plus des emplois agricoles, mais des emplois industriels.
Au 01 45 24 7000, on retrouve Cachou, vous nous appelez de Cessence, on vous écoute Cachou.
Bonsoir, oui, alors je voulais intervenir parce qu'il se trouve que je suis transformateur en produits à base de chanvre et en agriculture biologique. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que nous achetons une matière première qui est certifiée biologique, et puis dès lors qu'on commence à la transformer pour en faire de l'huile, pour en faire de la farine, pour faire des condiments, on repaye à chaque fois un label. On repaye. Donc on a une gamme de 13 produits qui sont à chaque fois facturés pour pouvoir indiquer dessus que c'est bien de l'agriculture biologique, que nous ne polluons pas. Ce qui fait que, alors que nous ne sommes même pas subventionnés, déjà en tant que transformateurs, au niveau de l'agriculture, c'est même pas la peine d'en parler, mais les transformateurs non plus. Voilà, moi ce qui m'interroge, c'est pourquoi nous, qui ne polluons pas, nous devons payer un label pour dire qu'on ne pollue pas, alors que l'industrie agroalimentaire met des produits chimiques, ne paye pas de label, est subventionnée et ne précise pas du tout les produits toxiques qu'ils peuvent mettre dans leur production. Je trouve ça vraiment aberrant, quoi. Et après, on s'étonne que les prix soient élevés au niveau de l'agriculture biologique, mais il y a un surcoût au niveau des labels, il y a un surcoût aussi au niveau de la main-d'œuvre, évidemment, puisqu'on n'emploie pas de produits phytosanitaires.
Merci Cachou de votre réflexion. Christiane Lambert vous répond effectivement, ça coûte cher le bio, il faut labelliser en permanence.
Enfin,
du coup, c'est pas très concurrentiel par rapport au non bio.
Quand on écoute Cachou, c'est un peu Apocalypse Now quand même. Hein. C'est pas tout à fait comme
non,
ça.
Non, mais c'est
que
une
ça
réalité. Fait, effectivement, la labellisation systématique, ouais, mais c'est une réalité pour le bio.
Oui, mais pour d'autres produits aussi. Si je suis en signe officiel de qualité, que ce soit en IGP ou AOP, appellation origine protégée, appellation origine contrôlée, j'ai aussi des entreprises de certification qui viennent vérifier que les choses sont faites correctement. L'agriculture biologique est à la confiance des consommateurs parce qu'elle a des processus de certification. C'est pour ça que les produits doivent être vendus plus cher parce qu'il y a moins de production et ils sont certifiés année après année. C'est normal qu'une certification, les organismes certificateurs soient payés. L'agriculture biologique perçoit des aides, 300 euros par hectare d'aide, en plus des aides de la PAC pour passer en agriculture biologique en grande culture parce qu'il y a justement des contraintes de contrôle. Donc il ne faut pas dire que ce n'est pas aidé. Pour les transformateurs, il y a aussi des attestations de contrôle. Et puis, il ne faut pas présenter l'industrie agroalimentaire qui n'est pas bio en Apocalypse Now en disant, eux, ils utilisent de la chimie et ils ne sont pas vertueux. Ils sont aussi contrôlés. L'ANSES fait régulièrement des évaluations et des contrôles. Donc, ce n'est pas de beaux joueurs que de dire, moi, je suis bio, je suis nickel. Et les autres sont des affreux. Donc, c'est un peu plus compliqué que cette présentation un petit peu caricaturale.
On retrouve au standard David. Vous êtes agriculteur, vous nous appelez de Quiz. On vous écoute, David.
Oui, bonsoir. Ma question s'adresse aux représentants de syndicats agricoles et aussi aux consommateurs. Donc, je voulais savoir, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que... parce que dans le revenu du paysan, il y a le prix et il y a les aides. Les aides qui sont de 8 milliards, 8 à 10 milliards pour la France. Alors, est-ce que vous êtes d'accord que 20% des aides, seuls 20% des agriculteurs reçoivent 80% des aides? Et alors que nous demandons un plafonnement par actif, alors que ces aides sont distribuées par hectare, par le nombre d'hectares et le nombre d'animaux. Et deuxièmement, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que la FNSEA a demandé à ce qu'on supprime les aides aux moins de 10 vaches, moins de 50 moutons, moins de 25 chèvres et moins de 72 ruches? Voilà. Donc j'aimerais l'avis là-dessus, et particulièrement les consommateurs sont d'accord avec nous pour qu'on plafonne les aides par actif. Voilà, merci.
Alors merci David, on parlait bien sûr des aides européennes. Laurent Pinatel.
Oui, bah, les aides européennes, effectivement, il y a de l'argent qui est investi dans l'agriculture. Historiquement, donc depuis la création de la PAC, aujourd'hui, on voit bien que il y a un modèle qui est plus soutenu qu'un autre. C'est un modèle plutôt d'agriculture intensive qui a eu le mérite de créer de l'emploi, il faut le reconnaître, qui a eu le mérite. Les zones les plus intensives du pays sont celles où il y a le plus de fermes. Hein. Donc, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, moi, je pense que ce modèle, il est daté. C'est une politique qui a vécu et il va falloir aider les paysans et les paysannes à changer de système et à s'orienter vers autre chose, créer de la valeur. Hein. On a beaucoup parlé aujourd'hui à Bercy, créer de la valeur par une augmentation de gamme en allant vers plus de qualité, ce qui correspond à ce qui a été dit tout à l'heure par rapport au point de vue des consommateurs. Et les paysans, il va falloir les prendre dans le système où ils sont et les accompagner vers une transition. Ça veut dire que l'argent de la PAC, il va falloir le faire bouger. Il va falloir aller envoyer un peu plus d'argent vers les mesures agro-environnementales qui vont faire changer le système, peut-être vers les aides bio. Et cet argent-là, il va falloir le prendre quelque part. Donc effectivement, il va falloir plafonner les gens qui touchent trop, parce qu'il y a des gens qui touchent trop d'argent. Et je pense que c'est aussi le moment de rappeler que tous les gens qui se sont engagés vers des pratiques vertueuses, qu'ils soient des mesures agro-environnementales ou l'agriculture biologique, attendent toujours le paiement de leurs aides. Oui, ça marche, mais ils attendent toujours le paiement de leurs aides. L'argent qui manque sur la PAC, il est là. Donc ça, c'est pas si c'est l'héritage de Stéphane Le Foll ou ce que Stéphane Travers en fera, mais il y a une vraie urgence, déjà, pour régler le problème de revenus chez les paysans, d'envoyer l'argent que l'État doit. Et ça, c'est indu, c'est les aides à l'agriculture biologique, c'est les aides sur le changement de système. Et il faudra continuer d'accompagner cet effort-là. là pour envoyer les paysans vers des systèmes qui sont plus vertueux, des systèmes où on pourra à terme se passer de pesticides, parce que les pesticides sont en train de tuer les paysans. Il y a eu une explosion, même si la MSA refuse de donner les chiffres, il y a eu une explosion des cancers dus à l'exposition aux pesticides, et c'est pas dans l'incantation, comme certaines associations peuvent le faire, de dire les paysans c'est des gros pollueurs, il faut arrêter, c'est plutôt dans la co-construction avec des politiques publiques, avec un État fort, pour envoyer de l'argent, pour changer les paysans, pour changer les systèmes qui sont en train de crever. Cette agriculture, elle a 40 ans, elle a vécu, on passe à autre chose.
Christiane Lambert, il faut passer à autre chose, effectivement. Aujourd'hui, c'est vrai que...
Même Nicolas Hulot a dit que l'agriculture était en transition, monsieur.
Bon, elle est en transition, mais effectivement, une réorientation des aides à la PAC vers le bio, pour aider le bio, ça serait une bonne
chose.
Alors,
elle a déjà eu lieu, monsieur. Elle a déjà eu lieu. Aujourd'hui, les agriculteurs, tous, depuis 2013, touchent 30% de leurs aides verdissement. C'est-à-dire que s'ils respectent des règles environnementales, ils ont leurs 30%, sinon ils ne les ont pas. Donc la transition, elle est en route. Même Nicolas Hulot l'a dit cet après-midi. Ce qu'a dit M. Pinatel est faux. Les agriculteurs ont moins de cancers que les autres. Ce sont toutes les enquêtes qui le montrent. Donc il faut arrêter de stigmatiser, d'instrumentaliser. Il y a un problème avec les pesticides. Ce ne sont pas des produits anodins et il faut les utiliser correctement. Il faut arriver à zéro impact de pesticides. Mais il est faux de dire qu'il y a moins de cancers.
Ça veut dire quoi, zéro impact de pesticides?
Aujourd'hui, il est difficile de se passer des produits phytosanitaires pour les plantes, comme il est difficile de se passer de médicaments pour les humains. Il faut soigner les plantes quand elles sont malades. Sinon, les produits qui sont livrés ne sont pas sains et sont refusés par les consommateurs, et ça sera juste normal. On ne veut pas livrer de produits malades. Par contre, aujourd'hui, avoir zéro impact, c'est trouver des solutions biologiques, des solutions microbiologiques, des solutions d'auxiliaires de culture qui permettent de moins traiter et d'avoir des produits phytosanitaires qui ont moins d'impact sur l'environnement. La recherche nous en donne aujourd'hui, pas pour tous les secteurs, mais nous, ce que nous préconisons, c'est vraiment d'aller vers des modes d'agriculture qui soient plus respectueux de l'environnement. Nous sommes en transition pour y aller. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Et ce qu'on a le plus de mal à supprimer, ce sont les produits herbicides, c'est-à-dire les produits qui tuent les mauvaises herbes. Les attaques de ravageurs ou les maladies, on arrive mieux à les gérer avec des insectes auxiliaires. Par contre, quand il pleut beaucoup, il pose beaucoup de mauvaises herbes. C'est comme dans votre jardin. Et pour tuer les mauvaises herbes, il faut des herbicides. Et ça, on n'a pas trouvé d'alternative. Donc, on sait faire. Sous serre, on sait tout faire. Quand les ambiances sont contrôlées, les milieux sont contrôlés, on sait réduire de 80% les pesticides en très peu de temps dans les serres. Par contre, en plein champ, c'est plus compliqué. Là, il y a besoin de plus de temps. Mais zéro impact, c'est dire... Des produits qui n'ont pas de conséquences sur la santé humaine, des produits qui n'ont pas de conséquences sur l'environnement, ils sont pour l'instant que dans les labos, il faut aller beaucoup plus vite pour nous les mettre à disposition.
Laurent Pinatel.
Oui, Madame Lambert a une façon très particulière d'interpréter mes propos. Je n'ai pas dit qu'il y avait plus de cancers chez les paysans, j'ai dit qu'il y avait plus de maladies liées aux pesticides. Et on peut regarder, j'invite tous les auditeurs à regarder dans leur entourage paysan d'un côté et leur entourage non paysan de l'autre, la fréquence d'apparition des maladies qui sont la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et les cancers du cerveau. C'est hallucinant. Ce que la MSA est en train de taire. C'est hallucinant le nombre de paysans qui sont en train de crever à cause des pesticides. Et oui, j'assume ce discours complètement à la Confédération Paysanne, on l'assume, de dire les pesticides sont dangereux en premier lieu pour les paysans. Moi, j'ai plein de voisins qui ont Parkinson, j'ai plein de voisins qui ont Alzheimer, parce que c'est lié, c'est reconnu, c'est lié à l'utilisation des pesticides. Donc il faut absolument trouver des solutions. Trouver des solutions par le développement des alternatives aux pesticides, parce qu'on est là pour sauver les paysans. Enfin, moi, je suis responsable d'un syndicat agricole, je suis pas en train de dresser des dauriers à l'agroalimentaire, comme l'a fait Madame Lambert, je suis là en train de dire, attention, les paysans, ils vont crever parce que le système intensif, il est en train de les tuer. Donc voilà, c'est simplement ce que je voulais rappeler.
On retourne au standard avec Karine qui nous appelle. Karine, vous êtes directrice de l'association Foodwatch. Hein.
Oui, tout à fait. Bonsoir.
Bonsoir, on vous écoute.
Mais j'aimerais insister, en fait, parce qu'on parlait tout à l'heure du lien alimentation et consommateur, et il y a trois priorités qui me paraissent essentielles et qui n'ont pas encore été suffisamment abordées. La première, vous venez d'en parler, il faut vraiment faire le lien entre santé, alimentation et environnement. C'est ce qu'on appelle l'approche santé-environnement. Et notamment, par exemple, cet objectif d'interdire les perturbateurs endocriniens. J'espère que les États généraux de l'alimentation sauront prendre des mesures, et il y en a une qui est très simple, que l'on porte, on pourrait commencer par cela, c'est interdire la contamination des aliments par les huiles minérales. Ce sont des hydrocarbures, et c'est très facile à faire. Il y a un deuxième sujet, c'est la cohérence des politiques publiques. Je voudrais vraiment parler de l'accord transatlantique de commerce que l'Union européenne est en passe de finaliser avec le Canada et surtout qui va entrer en vigueur provisoire le 21 septembre.
Ouais, il a déjà été signé et ratifié.
Voilà, donc ça a été adopté au niveau européen, pas encore ratifié au niveau national, mais je voudrais vraiment attirer l'attention là-dessus, car si on a d'un côté une politique publique qui affiche la volonté de protéger les consommateurs par exemple en interdisant les perturbateurs endocriniens, mais qu'on signe ces accords de commerce, il faut savoir que ces accords de commerce nous empêcheront d'avoir la liberté, en fait, de décider de politiques publiques telles que celles-là. Donc j'appelle le gouvernement à avoir une vraie cohérence de politique publique. Mais il y a un troisième point, le dernier, et je voudrais interroger du coup Monsieur Gérindeau. Il y a la question de la transparence sur les étiquettes. On est dans un règne de la désinformation aujourd'hui dans le secteur alimentaire en France. Et il y a un projet particulièrement intéressant qui est le projet d'étiquetage nutritionnel. Je pense que beaucoup des auditeurs ont entendu parler du 5C, le Nutri-Score. Le gouvernement soutient ce projet en France.
Non.
Il y a des industries telles que Nestlé qui refusent en fait de soutenir ce projet et d'y adhérer et qui proposent un modèle très différent. J'aimerais avoir l'avis de M. Gérindeau sur ce projet d'étiquetage nutritionnel.
Merci Karine. Eh bien, écoutez, Richard Gérindeau, qui est aussi PDG de Nestlé France, qui vous répond.
Effectivement, il y a eu 5 codes nutritionnels qui ont été testés à la demande du ministère de la Santé. Et quand Madame précise, l'auditrice précise, avec l'accord du gouvernement, non, du précédent gouvernement, puisque le nouveau système ou l'étude de ces systèmes a été remise en cause ou va être réétudiée, gérée par le nouveau gouvernement, nous sommes effectivement partisans d'un système, à nos yeux, plus transparent, qui s'appelle Nutri-Couleur. Je ne voudrais pas entrer trop dans les détails. Et nous contestons un peu la validité du Nutri-Score cité par votre auditrice. Donc, on a un...
Pour quelle raison concrètement vous contestez ce mode d'étiquetage?
On trouve notre système plus transparent.
Quelle est la différence entre les deux?
La mise en avant très claire de couleurs par rapport à des portions, et on fait attention on apporte l'attention aux consommateurs sur ces doses, on va dire, par catégorie, sel, sucre, protéines, poids, gras, etc. Donc on a effectivement une conviction et on partage cette conviction avec pas mal d'industriels. Je voudrais revenir après sur la transparence, répondre à la deuxième question sur la transparence des emballages. Vous avez cité Nestlé. Bon, effectivement, je suis en charge de Nestlé, donc je réponds. Je pense qu'on a une collaboration assez claire avec Foodwatch. On a changé un emballage suite à une contestation de Foodwatch et on n'a pas discuté. On a tenu compte de leur avis. Sur les huiles, on est en train de prendre les mêmes mesures. À l'inverse, quand on vous demande d'enlever le petit lapin de Nesquik sur le packaging de Nesquik parce qu'il est perturbant ou il incite les enfants à acheter, ça, on a un peu plus de mal parce qu'on fait notre métier. On est là pour vendre des marques, encore une fois.
Anne Gelbert, vous vouliez réagir aussi.
Oui,
sur l'étiquetage.
Justement, sur l'étiquetage, l'étiquetage, c'est quand même c'est un des moyens d'informer le consommateur sur la qualité nutritionnelle globale des aliments. Et justement, concernant ce Nutri-Score, une expérimentation en conditions réelles d'achat avait été mise en place. Et il s'avère que Nutri-Score était apparu comme le système le plus efficace. Donc, pourquoi partir sur un autre procédé si celui-là est le plus efficace? Et d'autant plus qu'a priori, il n'entraîne pas, contrairement à d'autres systèmes, de dégradation de la qualité nutritionnelle des achats. Et même à l'inverse, il a eu tendance à l'améliorer. Et c'était encore d'autant plus vrai pour les ménages qui étaient défavorisés et qui sont donc touchés, on en a encore parlé également durant la journée, par ces problèmes de santé liés à une mauvaise alimentation. Eux-mêmes ont trouvé ça plus facile à comprendre et ce Nutri-Score est un bon outil d'aide à la décision. Donc, c'est important d'avoir ce genre d'outil.
On retourne au standard avec Salah qui nous appelle de Saint-Germain. On vous écoute, Salah. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci. L'émission de ce soir est vraiment intéressante. Mais promettez-moi que la prochaine fois, vous organiserez rien que sur le thème, bien sûr, l'alimentation, mais que ça serait la santé alimentaire. Alors, la santé alimentaire... vous savez, la question centrale qui nous tient à la vie, c'est l'alimentation. Nous sommes obligés de manger, donc il faut manger sain. Or, l'industrie alimentaire a pris la main depuis au moins 40 ans, avec la grande distribution, vous l'avez évoqué, etc., avec toute la grande problématique que vous avez bien évoquée durant l'émission. Alors, moi, la question que je vous pose, c'est en quelque sorte une proposition solution. Vous vous rappelez quand il y a eu la tuberculose ou bien le sida, qu'est-ce qu'elles ont fait les différents gouvernements et l'État? Il a pris la question en charge et il a injecté beaucoup d'aides publiques, d'argent, pour les associations, pour éduquer les gens à la pour se prémunir des maladies, du sida, etc. Et je considère que c'est un fléau, la question de la santé alimentaire, parce qu'il y a beaucoup de maladies, il y a la sécurité sociale, etc. Le problème, il est très riche, je ne veux pas évoquer. Donc, la proposition que je vous fais, elle est simple. Et si M. Macron nous écoute ce soir, je lui tends la perche, il faudrait, à mon avis, aider les associations localement, région par région, pour que chaque région retrouve ses traditions alimentaires localement, avec les circuits courts, etc.
Bah écoutez, ça là, le message est passé. Si Emmanuel Macron nous écoute, Richard Girardeau, vous vouliez réagir?
Oui, je voudrais mettre en faux l'industrie agroalimentaire était le diable. Il y a un risque sanitaire énorme. On compare au sida et à la tuberculose. Pourquoi pas au choléra? Je suis un peu gêné parce que il y a un monsieur très célèbre ici qui s'appelait Jean-Pierre Coff, à qui je rends hommage. J'ai été interviewé plus d'une fois par lui. Il y a 20 ans, il était sur le plateau de Canal+, il remuait un sac de jambon en tranches et il y avait de l'eau partout qui dégoulinait d'un sac en plastique. Je vous défie de trouver un produit de type maintenant en distribution, de quelque industriel que ce soit, je ne vais pas citer de marque évidemment, pas celle du groupe Nestlé en tout cas, mais le consommateur trouve un produit sain, de qualité, qui n'était pas le cas il y a 20 ans.
Mais c'est vrai que
donc, il faut arrêter ce qu'on appelle le
Richard
food bashing.
Girardeau, ça traduit comme une réelle inquiétude des consommateurs. Les auditeurs nous appellent, ça traduit comme une réelle inquiétude, effectivement.
Il y a sûrement ce que je disais tout à l'heure, et je suis apparemment pas complètement d'accord avec mon voisin de droite. Je dis pas de l'éducation. L'éducation, c'est vers les enfants. Il faut la faire. Et ça a été un sujet abordé toute la journée, pendant la première session des ateliers. Mais il y a de la pédagogie à faire. Peut-être qu'on n'a pas complètement fait le travail.
Est-ce que ça peut être effectivement un atelier au sein de ces états généraux? La pédagogie, il y en a un, Christian Lambert.
Alors, il y a un atelier au sein des états généraux de l'alimentation qui va traiter de ce sujet. Dire que la France est reconnue comme le pays de la sécurité sanitaire et alimentaire, c'est la directrice de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui l'a dit, c'est pas moi. Il y a des accidents alimentaires parfois lorsqu'il y a des actes malveillants. Celui qui vient de se faire rattraper par la patrouille parce qu'il trafique de la viande de cheval, c'est bien qu'il aille en prison et qu'on n'en parle plus. Parce que ça fait perdre la confiance. La majorité des gens travaillent bien, il suffit de 2 ou 3 excités pour faire perdre la confiance et après on trinque tous quand il y a ces accidents-là. Il y a beaucoup d'actions conduites, pommes au collège pour inciter les jeunes à manger des pommes, la semaine du goût, qui sont des travaux de bonne information. Il faut les vulgariser, je suis d'accord avec l'auditeur, mais de grâce, nous sommes un pays de sécurité alimentaire.
On arrive au terme de cette émission, les états généraux de l'alimentation ne font que démarrer, il faut le rappeler, il y a encore 5 mois de discussion, donc on aura l'occasion de revenir ici sur l'antenne de France Inter pour parler finalement de l'évolution des débats qui ont été lancés aujourd'hui.